Voilà, nous demeurons sensibles à la présence de Dieu et tout au long de cette prédication, nous voulons avoir une oreille bien disposée, dire comme Samuel, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute, Alléluia ». Ah oui, parce que de la qualité de notre écoute dépendent tant de bénédictions. Amen. Hein. Je veux avoir vraiment une oreille attentive, prendre conscience de la valeur de la parole de Dieu. Vous savez, quand c'est Dieu qui parle, c'est bon de l'écouter, hein, parce que sa parole, elle est bonne. Elle génère, elle crée toutes sortes de résultats merveilleux. Hein. Gloire à Dieu. Je vais vous proposer, ça va être très très simple ce soir, je vais vous proposer deux textes. Ces deux lectures concerneront un personnage très important de l'Ancien Testament puisqu'il s'agit du roi David. Je vais vous proposer pour commencer dans le premier livre de Samuel au chapitre 22 une première lecture. 1 Samuel, le chapitre 22, on va lire dès le premier verset. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpah, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Amen. Et permettez que je mette une insistance particulière sur la fin du verset 3, parce que c'est plein d'enseignements où le roi David dit au roi de Moab, « Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et puis on va lire aussi le psaume 63, il n'est pas très long, on va le lire dans sa totalité. Le psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. On va tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce message, regarder un peu plus en détail ce psaume 63 qui va nous donner quelques éléments d'encouragement et d'édification. Je voudrais simplement, déjà dans l'introduction, voir avec vous qu'il y a eu dans le parcours de David des saisons. Des séquences très contrastées. Si vous lisez la biographie de David, vous êtes ébloui par ses débuts. Il n'a pas mis longtemps, il était probablement un adolescent, que déjà, il vivait des expériences extraordinaires du secours de Dieu. Discrètement, personne ne le voyait, il ne le mettait pas sur Facebook avec des méga-vues, des matu-vues, mais discrètement, dans le secret de sa vie personnelle, il vivait des expériences extraordinaires. Alors qu'il gardait ses troupeaux, les brebis de son père, vous le savez fort bien, lorsque un animal sauvage venait, un lion, un ours, ravir une brebis, il se levait, habité d'une hardiesse qui nous surprend. Il courait derrière le lion, moi j'aurais couru devant. Il rattrapait le lion, il le retournait, il le frappait, et le lion partait, il fuyait, un lion qui fuit, dites. Et il ramenait la brebis saine et sauve. C'est du miracle. Et c'est du miraculeux, c'est extraordinaire. Et puis alors qu'il vit ces choses, humblement, simplement, un messager arrive de la maison paternelle et lui dit « Viens vite, parce que le prophète est à la maison et ton père te demande. » Ah bon ? Alors il vient, il arrive et il s'aperçoit qu'il y a là un rassemblement solennel chez son père. Le prophète Samuel est là et devant tous les frères et tout le voisinage. Samuel déverse sur cet adolescent l'huile de l'onction royale. Wow, quelle expérience ! Jeune, mais loin de l'onction royale. Et c'était plus que de l'huile, mais c'était une vocation, c'était un appel, c'était la révélation du plan de Dieu pour ce jeune homme, l'onction royale. C'est extraordinaire, ça a marqué définitivement la vie de ce garçon, que Dieu soit béni. Et puis les événements s'enchaînent dans une simplicité désuète, il est toujours là, son père lui demande une commission d'aller livrer quelques fromages à ses frères qui sont en guerre contre les Philistins, alors lui il obéit. Vous savez, l'obéissance c'est toujours le chemin de la bénédiction. Dans les choses simples, il obéit, livreur de fromage il est maintenant, vous voyez, de gardien de brebis, il devient crémier ambulant, et il livre les fromages, et pendant qu'il propose ses fromages à ses frères, il entend le défi que Goliath lance au peuple de Dieu et à l'armée d'Israël, et vous savez de quelle manière, brusquement, tout son être a été saisi par une sainte réaction. L'Éternel son Dieu était outragé par cet incirconcis, et alors il s'étonne, il se dit, mais ils vont se lever tous, personne ne se lève. Alors lui, il va voir Saül, moi je vais relever le défi. Saül le méprise, tu n'es qu'un enfant, il est lui un homme de guerre depuis son couffin, et qu'est-ce que tu vas aller ? Mais David insiste, et vous savez la suite. Il prend quelques pierres polies au torrent, 5 pierres, et avec sa fronde et une pierre, et en confessant le nom de son Dieu, au nom de l'Éternel que tu as insulté, il décoche la pierre. La pierre se fiche dans le front du Goliath qui tombe à terre. David le raccourcit de quelques centimètres. Et quelle victoire! Et j'ai envie de dire que son curriculum vitae ne fait que s'enrichir d'expériences extraordinaires. Et quand Saül le voit ça, et qu'il apprend en plus que c'est un bon musicien, David devient le musicien du roi, dites-moi. Le musicien du roi, quelle promotion! Avant, il n'y avait que les brebis et les pâquerettes qui entendaient sa musique. Maintenant, il joue pour le roi. Et puis, le roi s'aperçoit que non seulement c'est un bon musicien, mais c'est un vaillant guerrier. Il en fait son porteur d'armes. Promotion sur promotion. Et puis, de porteur d'armes, il devient même le chef de l'armée de Saül, dites-moi. Au point qu'il rentre d'une campagne, toutes les demoiselles qui rêvaient du prince charmant chantent « Saül a vaincu ses mille, mais David, il y a des you-you là, il y a plein de you-you, David a tué ses 10 000, il est devenu un héros national, c'est extraordinaire. Il y a eu donc toute une phase, une saison où la puissance de Dieu et sa grâce ont accompagné de manière, j'allais dire, spectaculaire le parcours de David. Et il aurait pu s'imaginer qu'il en serait ainsi tout le temps et jusqu'au bout. Et voici que brusquement, volte-face absolument imprévisible et brutale, le même Saül qu'il avait promu, musicien du roi, chef de son armée, etc., est saisi de jalousie. Une fureur maladive et insensée le porte à attenter à la vie de David. David doit fuir le palais du roi et trouver refuge dans le désert de Juda. Et j'ai intitulé mon message « Du palais au désert ». Du palais au désert. On imagine facilement les sentiments très contrastés qui ont été celui de David. La preuve, c'est qu'après avoir mis à l'abri son père, ses frères, sa famille auprès du roi de Moab, il dit au roi de Moab, écoute, tranquillise mon esprit, prends soin d'eux, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il est perdu, désorienté. Jusque-là, tout allait sur les rails. Mais là, il est dans une attitude complètement désorientée. Il n'a en lui aucune sorte de direction. Ses pensées ne sont pas claires. Il a beau analyser les circonstances et envisager l'horizon, rien de clair ne vient devant ses yeux. Il se retrouve dans le désert de Juda jusqu'à ce que je sache, dira-t-il, ce que Dieu fera de moi. Vous savez, dans l'Écriture, il y a beaucoup de déserts. Oui, il y a les verts pâturages du psaume 23, mais bien sûr, heureusement. Il y a les eaux paisibles, merci Seigneur, alléluia. Mais il y a aussi les déserts. Moi, les déserts, je les aime en photo. Mais je n'aime pas les traverser. Et pourtant, ils font impérativement partie du cheminement de l'enfant de Dieu. Le Dieu qui tient les temps et les circonstances dans ses mains, n'aurait-il pas pu éviter ce désert à David ? L'homme selon son cœur, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, et Dieu aurait pu éviter. Mais Dieu peut permettre le désert. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le désert que tu pourrais traverser n'est pas le fruit d'un accident, ce n'est pas un fait aléatoire qui survient, non, c'est Dieu qui le permet. Dieu permet ton désert. Mais attention, non pas dans le but pour que tu y restes, mais c'est dans le but de te bénir, de t'enseigner des choses et de te préparer pour la suite. Parce que David n'est pas mort dans le désert. Hein. Mais ce passage dans le désert de Juda a été une parenthèse, j'allais dire déterminante, pour l'équiper et le préparer pour la suite, pour une deuxième onction royale sur Juda, pour une troisième onction royale sur Israël et pour toute une carrière de roi célèbre qu'il a été et de prophète aussi qu'il a été, parce que David a atteint cette dimension prophétique avec des écrits absolument sublimes annonçant le Seigneur Jésus. Le désert de Juda. Élie a traversé son désert, il y a tellement de déserts, Jacob a été dans le désert. Dans le désert, Dieu s'est révélé à Agar. Jésus, par le Saint-Esprit, a été conduit au désert, dites. Après une phase justement très glorieuse où la voix du Père en personne se fait entendre publiquement, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le !» Et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. C'est glorieux. Tout de suite après, le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert. Et là, 40 jours, 40 nuits de solitude, et puis les tentations, les relances, les harcèlements de l'adversaire, le désert. Eh bien, écoutez, moi, je m'aperçois d'une chose, premièrement. C'est que dans le désert, ce désert de Juda, vous savez, ce n'est pas le désert saharien avec des dunes douces, du sable agréable. Non, c'est un paysage rude. C'est rocheux, c'est des pics, des crevasses. On y évolue très difficilement. Le désert de Juda, c'est une terre inhospitalière. D'ailleurs, David va l'écrire dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et bien, dans ce contexte-là, je m'aperçois que l'inspiration de Dieu est sur David. Il exprime un psaume. Merci Seigneur. Il y en a pour être en forme spirituellement, il leur faut toutes les conditions favorables. Vous savez. Il faut un auditoire quand même assez nombreux, la clim pas trop chaude, pas trop froide, il leur faut un bon orchestre, des cantiques inspirés, le moins de canards possible, de la part des chantres, je ne sais pas, enfin, il leur faut un bon prédicateur, hein, parce que si c'est un petit là qui est un petit peu énervé, qui balbutie, un peu chauve, là, vous voyez ce que je veux dire, il leur faut des conditions optimales, mais vous savez, la foi, je vais vous dire une chose, le désert révèle la qualité et la teneur de la foi que nous professons. Parce que la foi, ce n'est pas que de dire, mais la foi, c'est démontrer ce que nous disons. Amen. Et c'est le désert qui va révéler ces choses. C'est dans le désert qu'on voit ta foi. C'est dans le désert qu'on voit ce que représente pour toi la persévérance, la prière, la fidélité, alléluia, la constance. C'est dans le désert. Vous savez, ce désert qui est symbole de l'oubli, qui est symbole de la solitude et de l'isolement, le désert qui est l'image du rejet, de l'injustice, du danger permanent, parce que dans le désert de Juda, David a été en permanence poursuivi, menacé, harcelé, et par Saül, et par les espions qu'il avait sous ses ordres, et par les Philistins qui rajoutaient leurs couches, il était en péril dans le désert. C'est vraiment une situation terriblement insupportable. Eh bien, c'est dans ce désert que la teneur de sa foi s'est exprimée. Amen. Ton désert n'est pas pour ta perte. Ton désert, c'est l'occasion pour que tu exprimes à quel point ta foi dans celui que tu confesses est authentique, véritable, que le Seigneur soit béni. Dans le désert, il va s'exprimer. Et dans ce qu'il exprime dans ce psaume 63, bien moi j'ai relevé quelques points que je vous propose. En toute simplicité, voilà le psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dieu était le Dieu de David, tout jeune déjà, n'est-ce pas? Je vous ai résumé les étapes glorieuses par lesquelles il est passé, parce que Dieu était son Dieu déjà. Mais ici, dans le désert, sa relation et sa connaissance de son Dieu vont se sentir comme poussés, encouragés. Il prend conscience d'une manière toute nouvelle de l'importance irremplaçable que Dieu soit son Dieu, que la présence de Dieu soit une réalité proche. C'est pourquoi il dit « Je te cherche ». J'aimerais te dire que si Dieu est avec toi, alors tu jouis de l'essentiel. Si Dieu est avec toi, si sa présence est une réalité dont tu es conscient et consciente, tu peux te trouver au sein d'un service d'incrédule, dans une administration, dans une usine. Tu peux côtoyer des fanfarons, des moqueurs. Tu peux être au sein d'une famille difficile. Tu peux être entouré de contradicteurs. Tu peux être en butte à toutes sortes de paramètres inhospitaliers. Mais si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Tu les bénis, tu les aimes, tu les regardes avec douceur. Tu souhaites le meilleur pour eux parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas impressionné, ni intimidé, ni apeuré. Tu n'es pas du tout sous leur influence, mais tu es paisible. Vous savez, il y avait une horde d'extrémistes qui pressaient le Seigneur Jésus voilà, pour le précipiter du haut d'une falaise. Ils étaient survoltés. Le Seigneur Jésus se retourne. Il les regarde. Il fait un pas, il s'écarte les autres. Fait un deuxième pas, un troisième pas, tout le monde s'écarte. Ce même Seigneur qui vit en toi, par sa présence, te communique cette grâce de braver paisiblement, sereinement, toutes les formes d'adversité qui voudraient t'ébranler. Il passe du palais au désert. Mais ce changement brutal ne le déstabilise nullement. Il démontre que sa foi, ce n'était pas de la gnognotte, ce n'était pas du vernis religieux, mais que sa foi était ancrée au plus profond de son être. Et il exprime cela par le psaume 63. Et le premier point que je voulais placer sur votre cœur, c'est l'attachement à la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, que Dieu soit béni. Le deuxième élément que la foi de David va exprimer dans ce désert de Juda, c'est qu'il va, et c'est dit à plusieurs reprises, il va consulter l'Éternel. Autrement dit, il va chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans le psaume 63, mais c'est dans les récits du premier livre de Samuel que vous trouverez à plusieurs reprises cette expression « David consulta l'Éternel ». D'ailleurs, dans ce désert de Juda, je vous parlais des Philistins, ils vont venir faire la guerre, etc. David fait venir l'éphod et il invoque l'Éternel et lui dit « Seigneur, qui suis-je pour te faire cette demande ?» Mais montre-moi, révèle-moi. Et à partir de là, et à plusieurs reprises, il va consulter l'Éternel. Autrement dit, il va chercher la volonté de Dieu. Ma prière et mon encouragement ce soir, c'est que tu fasses de cette démarche ton habitude personnelle de consulter le Seigneur. Parce que le Seigneur, ce n'est pas un suiveur. C'est nous qui le suivons. Lui, c'est le meneur. Et on doit le consulter. Gloire à Dieu, hein ? On doit le consulter. On doit le consulter pour toutes les circonstances qui le nécessitent. N'allez pas le consulter pour des babioles. Vous voyez ? Ne faites pas comme cette chrétienne de Lyon. Elle téléphonait régulièrement au pasteur en disant « Frère, je n'ai pas d'idée pour faire le manger de midi. Vous avez, est-ce que vous avez une idée ?» Non mais qu'elle aille s'acheter des livres de recettes. Hein. Non, non, non. Mais on doit consulter le Seigneur sérieusement pour toutes les situations devant lesquelles nous sommes désorientés. Notre logique, notre rationnel ne nous est pas d'une utilité suffisante. Nous pourrions aller ici ou là. À nos yeux, c'est équivalent, mais ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut pour nous. D'ailleurs, dans ces multiples consultations du Seigneur, une fois, Dieu lui dit « Vas-y !» Et une fois, dans les mêmes conditions, Dieu lui dit « N'y va pas !» Vous voyez ? Et David, avec beaucoup de souplesse et de docilité, s'est rangé à la sagesse de Dieu. Combien Dieu apprécie l'obéissance. Amen. L'obéissance. Un cœur obéissant, très sensible aux injonctions du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Et un autre texte dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Eh bien, dans le désert de Juda, David développe cette qualité de rechercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Dans tous les domaines, dans les choix professionnels, dans des propositions apparemment alléchantes qu'on peut nous faire, on se dit « Waouh, c'est super, oui, mais qu'est-ce que Dieu en pense ?» Dans le domaine sentimental, la gestion de ma vie affective, le choix de ma future épouse, de mon futur époux, dans le choix de mes fréquentations, dans plein de domaines, les orientations dans mes études, dans les projets que j'envisage, il est tellement bon de consulter l'Éternel. Et je vais vous poser une question. Si on lui demande sa volonté, est-ce que Dieu va nous la donner ? Oui ou non ? Il va nous montrer le Seigneur. Il va nous montrer clairement, clairement. Et là aussi, il n'existe pas de recette petit A, petit B, petit C. Ne venez pas me dire, pasteur, donnez-nous un petit feuillet avec petit A, petit B. Non, parce que, non, c'est dans ton intimité avec Dieu que Dieu va clairement répondre à ta demande de l'éclairer, de t'éclairer, et il va utiliser tous les moyens qu'il souhaite utiliser. Il peut utiliser même des personnes incroyantes, il peut les utiliser comme des accessoires, des instruments. Je me souviens, c'est tellement bouleversant, cette jeune chrétienne qui, après quelques années de marche fidèle, finalement s'était laissée gagner par la tiédeur, et puis s'était laissée attirer aussi par les plaisirs du monde, et puis finalement, elle en était arrivée à abandonner complètement le Seigneur, et puis ce samedi soir, elle était dans une boîte de nuit. Eh bien, écoutez, au milieu de ce vacarme et de ces gesticulations, il y a un gars qui s'approche de lui, là, au milieu de la foule, et il la regarde, Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et il disparaît, mais ça a été comme une épée qui a transpercé son cœur. Évidemment, Dieu était en train de lui adresser un message. Et il est sorti pour ne plus revenir dans ces milieux, et il est revenu au Seigneur. Même un inconverti, Dieu peut l'utiliser. Voyez-vous, il y a tellement de moyens à nous de développer notre sensibilité, notre discernement, notre intelligence spirituelle pour discerner la volonté de Dieu. Le Seigneur veut te conduire. Il veut éclairer ton chemin afin que tu n'empruntes pas des dérives, mais que tu marches dans ses plans merveilleux. Que son nom soit béni. Puis je termine avec ces quelques observations. Dans ce psaume, David va parler tantôt au présent, tantôt au futur. Et que je lise ses paroles au présent, ou que je lise ses paroles pour le futur, j'y trouve un homme plein de foi et d'espérance. Dans son présent, à vue humaine, pas du tout positif, David dit, je te contemple. Il y a mieux qu'un désert pour contempler Dieu, n'est-ce pas? Mais lui, il contemple. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Il vit un présent de plénitude spirituelle malgré l'environnement défavorable et peu propice. Les chrétiens, ils vivent toujours dans une projection pour demain. Ils vivent au futur. Il y en a d'autres, ils vivent dans le passé composé. J'ai été un chrétien bouillant. J'ai exercé jadis les dons spirituels. J'ai rempli tel service. Eh bien, Dieu veut que tu vives pleinement ton présent. Que ce soir tu puisses dire, mes lèvres célèbrent mon Dieu. Là, aujourd'hui, il m'a guéri de mon passé. Il me rassure quant à mon avenir. Et je ne vais laisser ni le passé ni l'avenir hypothéquer la bénédiction dans ma vie pour aujourd'hui. Vis ton présent dans toute sa plénitude. Alléluia! Quel que soit le contexte, dis comme David, « Oh, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mon âme est attachée à toi. » Ta droite me soutient. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Il vit pleinement son présent. Et non seulement il le vit dans la louange et la célébration, mais il le vit aussi dans la méditation. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Il approfondit sa connaissance de Dieu. Tout ça, c'est dans le désert. C'est dans ces parenthèses désagréables à première vue, mais tellement pédagogiques lorsque nous le vivons avec une foi totale, que Dieu soit béni. Et puis, il parle aussi au futur, parce qu'il y a toujours un futur. Il y a un vieil homme de Dieu qui disait, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Il avait 85 ans. Le meilleur est devant nous. Et ben finalement, il n'a pas tort. Parce que vraiment, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Ce que Dieu prépare pour nous. La destinée glorieuse qui nous est réservée. Il y a un avenir, visiblement, pour ce David qui est en fuite, qui est comme un exilé dans le désert. Il a un avenir et il peut exprimer « Oh, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. » Il y a un avenir. Il y a aussi de l'avenir pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu a un avenir pour toi, un avenir glorieux, que le Seigneur soit béni. Et je vais terminer avec deux dernières remarques. C'est que, au verset 12, David, en parlant de lui-même, en plein désert, dira, le roi, c'est lui, le roi se réjouira en Dieu. Il n'oublie pas que dans la maison de son père, comme cela a été mentionné tout à l'heure, l'onction royale a été répandue sur lui lorsqu'il était un adolescent. Et que cette onction n'a pas été simplement un sacrement ponctuel, mais une option divine sur sa vie. Dieu a mis sa main sur lui. Comme si Dieu, ce jour-là, lui disait, tu es à moi, tu m'appartiens, tu es maintenant réservé pour accomplir mes volontés. Mes frères et mes sœurs, ne laissons aucune circonstance, aussi violente pourrait-elle être, nous faire oublier qu'un jour Dieu a mis sa main sur nous. Et Dieu nous a dit, je te veux. Amen. Tu es à moi. Je suis ton Dieu maintenant. Je gouverne ta vie. J'en ai la charge, la responsabilité. C'est moi ton Dieu. Et toi, tu es au bénéfice de cette onction royale. Moi, je veux voir des rois et des reines là ce soir. Vous voyez un petit roi là ? Parce que nous formons un royaume. Nous formons un royaume. Nous sommes appelés à régner. Quelqu'un me dira, oui, dans le ciel. Oui, bien sûr, dans le ciel. Mais moi, je crois une chose. C'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons déjà régner ici-bas. Nous pouvons exercer cette autorité honorifique, ce statut royal dont nous avons hérité. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du tentateur, mais nous sommes appelés à régner, alléluia, gloire à Dieu, à marcher d'une manière digne de l'évangile, l'onction royale. Et puis, je termine dans ces derniers versets, le roi David prononce aussi quelques paroles qui attestent de la justice de Dieu. Et il dira, en parlant des méchants, eh bien, ils seront livrés au glaive, la bouche des menteurs sera fermée, il y a des paroles comme cela, parce que c'est important aussi de ne pas oublier que Dieu exercera toujours la justice. Et que face aux injustices qui pourraient ici ou là nous être infligées, il ne nous revient pas à nous de nous justifier. Mais il faut laisser le Seigneur nous justifier nous-mêmes. Gloire à Dieu. C'est lui qui justifie. Il justifie son enfant au moment qu'il a prévu. Il utilise la manière qu'il a choisie. Il faut s'en remettre à lui pour que des attitudes, des comportements inavouable, eh bien, soit clairement rétabli, c'est à lui qu'il faut laisser la prérogative. Quant à nous, eh bien, nous traversons le désert, et puis le moment venu, nous en sortons, et nous évoluons. Et moi, je prie le Seigneur pour que, finalement, la carrière de David, qui a été marquée, jalonnée par des séquences très contrastées puissent nous enseigner, nous aussi, dans notre marche quelquefois chaotique, avec des imprévus qui peuvent nous faire tituber, on ne comprend pas toujours tout d'un coup, là, mais la teneur de notre foi nous permet de garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Alors, si quelqu'un est dans le désert, ce soir, laisse au désert t'enseigner les leçons spirituelles qui vont te servir pour l'avenir. Fortifie-toi dans ce désert. Cherche ton Seigneur. Développe ta vie de prière. Éduque l'acuité de ton ouïe spirituelle. Alléluia. Aie soif de lui. Aie soif de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Ne la lis pas seulement comme cela en diagonale, mais entre dans les trésors cachés, dans les versets qui la composent, et grandis dans ton désert. Tu vas en sortir équipé pour gérer ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. On peut prier le Seigneur si vous le voulez bien.